Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère. Présentons-nous ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant qui est dans le feuillet inséré au début du psautier. En suivant du cœur cette prière égyptienne du IIIe siècle, que tout ensemble, les admirables créatures de Dieu ne se taisent ni le soir ni le matin, qu'ils ne se taisent pas non plus les étoiles, les hautes montagnes, les abîmes des mers et les sources des fleuves, pour dire notre joie et notre reconnaissance à Dieu. Tandis que nous te chantons, toi, notre Dieu, notre Père et le Père de Jésus-Christ, que tous les anges répondent Amen, que puissance, louange et gloire soient à notre Dieu, la source unique de tous les biens. Amen. Et nous chantons la psaume 138, que tout mon cœur soit dans mon chant, et les trois strophes.
Je te rends grâce, ô Père, et louange. Je te rends grâce, ô Père, et louange.
Bienvenue à tous, à ceux qui ont poussé la porte pour la première fois et à ceux qui viennent depuis des années. Et particulièrement un bienvenue à Fabien qui reçoit son baptême aujourd'hui et qui est venu entouré aussi. Voici ce que nous est proposé de vivre. Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Avec Grégoire de Nazianze, du IVe siècle, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. J'ai été bien déçue, ô Dieu de Jésus-Christ, par moi-même. Je suis tombée bien bas, relève-moi. J'ai conscience de m'être trompée moi-même. Si de nouveau je deviens présomptueux, je retomberai aussitôt et ma chute sera fatale. Si tu me reçois, c'est bien, sinon je meurs. Aurais-je moi seul lassé ta bonté? Je compte sur toi, éclaire mon esprit, dissipe toute erreur. En toi, Dieu de Jésus-Christ, j'ai plus confiance qu'en la victoire de mes propres forces. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu.
Thank you. vous pouvez prendre place. Et donc, bienvenue à Fabien, que j'accueille ici, chaleureusement, au cœur de cette assemblée que nous formons. Oui, merci. Donc, c'est un grand honneur et une joie pour nous. Merci beaucoup d'avoir choisi l'oratoire pour marquer cette démarche. Alors, on dit traditionnellement, lors des baptêmes, que c'est le signe du fait que Dieu vous a aimé avant même que vous le cherchiez. Alors oui, vous l'avez cherché longtemps, ce Dieu, finalement. 18 ans de recherche, mais pas seulement de recherche, d'approfondissement, d'intériorisation, de cheminement, grâce aussi à votre femme, qu'elle vous partageait la foi chrétienne. Alors elle est catholique, mais voilà, on peut partager ensemble, justement, dans cette pluralité de spiritualité, de théologie, de rites, d'église. Et cette recherche, elle s'inscrit dans une communauté large, dans l'Église avec un E majuscule qui dépasse largement toutes les chapelles particulières. Alors ce Dieu, vous l'avez aussi cherché donc dans votre spiritualité, dans votre réflexion théologique, dans votre pratique finalement aussi du service de l'autre, dans la famille, avec vos voisinages, dans votre travail. Et puis, ce qui m'est cher, en fait, aussi, comme élu dans votre municipalité, c'est vrai que là encore, c'est un service. Alors, c'est comme ça qu'on aime les chrétiens, finalement, en particulièrement peut-être chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcés de s'engager dans l'Église, y être sans arrêt, mais qu'ils se sentent appelés à servir dans le monde, appelés à rayonner de ce que leur cœur, leur propre cœur, leur inspire. Alors vous voilà maintenant, après ce cheminement parmi nous ce matin, à demander le baptême. Alors nous sommes un modeste échantillon de cette vaste communauté, mais nous sommes un échantillon qui a de la chance, puisqu'effectivement c'est ce matin que vous avez cette démarche et que vous allez nous dire qu'est-ce que est votre foi aujourd'hui. Alors, cette démarche que vous venez ainsi marquer d'une pierre blanche, elle est encore largement ouverte devant vous, bien entendu, et elle se poursuivra chaque jour. Bravo pour cette ouverture, pour cette intelligence et cette sincérité que vous mettez dans cette démarche. Nous prions Dieu. Ô Seigneur, selon ta promesse, envoie ton souffle de vie et que Fabien en reçoive chaque jour une lumière, une force et une paix pour avancer dans ce monde que tu aimes et qui a tant besoin de vraies personnes, de témoins, de ton amour. Amen. Alors désormais, Fabien, ce baptême vous rappellera que vous êtes accompagné dans ce chemin de la vie. Vous êtes accompagné par ce Dieu qui, chaque jour, vous répétera que vous êtes son Fils bien-aimé. Et que les personnes que vous rencontrez sont aussi les enfants de Dieu. Alors ce baptême, il vous rappellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ, en qui vous est offerte la grâce d'une vie confiante, confiante non pas dans les dogmes, non pas dans les rites, mais dans la seule grâce de Dieu, et confiant dans ce Saint-Esprit qui vous habite et qui vous indiquera toutes choses. Et à nous tous, frères et sœurs, qui sommes ici ce matin, eh bien ce baptême nous rappelle la grâce que Dieu nous fait de nous appeler, nous aussi, mon fils, ma fille, bien-aimée. Et c'est pourquoi, avec Fabien, nous pouvons nous tourner dans la reconnaissance vers ce Dieu qui est la source de la vie. Alors Fabien, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Fabien, que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur le chemin de votre vie, de sa paix, sa force, sa lumière et sa joie. Alors, dans la liberté que nous avons de répondre comme nous l'entendons ou de ne pas répondre, en fait, à cet amour de Dieu, vous avez choisi aujourd'hui de répondre à ce oui de Dieu sur vous, à un oui de votre personne vers Dieu. Et vous allez le faire avec quelques mots que vous avez préparés et qui viennent dire votre foi aujourd'hui. Alors évidemment, quelques paroles, c'est déjà par le filtre de l'intelligence et du langage, mais c'est le reflet de quelque chose qui vous anime et qui peut nous rejoindre, nous aussi, pour nous ressusciter un peu aussi ce matin. Alors je vous propose de vous lever pour vous unir à cette déclaration de foi qui sera pour notre dimanche, pour notre Église, la confession de foi chrétienne de ce jour.
Je crois en Dieu, notre Père, en sa bienveillance et en la bonté qu'il tient pour chacun d'entre nous. Je crois en Jésus-Christ, qui est venu nous délivrer sa parole d'amour et y a donné sa vie terrestre. Je crois en la force de son message qui donne l'espérance dans les heures de doute, la lueur toujours présente, même dans les ténèbres. Lorsque viennent la peur, l'angoisse, les doutes, il nous accompagne. Et son message nous donne la force d'avancer pour nous et pour les autres. Il est également présent, même si nous le trouvons plus difficilement, pour calmer notre colère ou accorder notre pardon. Je crois en l'Esprit Saint, souffle dans nos esprits, nos âmes, nos cœurs, pour y faire entrer le message du Christ. Je crois en l'Église universelle, bâtie sur tous les cœurs dans lesquels sont présents la foi et l'amour. Enfin, je crois en l'amour qui jamais ne passera ni ne cédera à la nuit. Amen.
Grand merci, Fabien. Merci. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors Fabien, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église universelle, c'est-à-dire cette large famille de frères et sœurs qui choisissent de suivre les pas de Jésus-Christ pour cheminer vers Dieu. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Oui, que ta paix et ta joie soient notre force, ô notre Dieu. Amen. Grand merci.
J'ai choisi le texte du jour, qui appartient au texte dit du temps de l'Église, même si les temps liturgiques ne sont pas tellement dans la culture des protestants des églises réformées. Et je lis donc dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins, et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, Les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès de Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Amen. Et nous chantons le psaume 62b, « En toi, mon Dieu, toi seulement », c'est les strophes 1 et 5. Nous prions Dieu. Notre Dieu, tu offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, élevés et ressuscités. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain. Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. Le texte d'aujourd'hui, la parabole de l'homme riche et Lazare, est inspiré d'un conte égyptien connu des contemporains de Jésus. Dans ce récit, un riche et un pauvre se retrouvent dans le royaume des morts et il est question de faire la balance respective de chacun. Le pauvre est vertueux et le riche est alourdi de ses péchés. L'un et l'autre seront jugés et même pesés, car il s'agit d'une balance en fonction des bonnes et mauvaises actions. Lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens et transforme ce conte en parabole, les auditeurs ont déjà une représentation en tête. Il s'agit d'un renversement des valeurs, une histoire qui marque par son exemple. Au premier abord, la leçon est plutôt banale, qu'une punition attend celui qui accumule ses richesses sans se préoccuper d'autrui, qu'il y a un abîme qui sépare riches et pauvres. Dans l'Évangile, la parabole va prendre un sens plus profond. Regardons de plus près l'homme riche, dont nous ne connaissons d'ailleurs pas le nom. Il est dit qu'il est somptueusement vêtu, qu'il tient des banquets avec des repas de fête tous les jours. Il vit dans une grande maison avec un portail au pied duquel Lazare se tient. Il est un exemple assez intemporel d'un homme riche et puissant, d'un maître qui a l'habitude de commander. Une fois arrivé dans le monde des morts, il ne trouve pas mieux à faire que donner des ordres. Ces ordres sont d'ailleurs déguisés en prières. Voici qu'il demande d'abord à Abraham de lui envoyer Lazare pour lui servir de l'eau. Ensuite, il souhaite que Lazare avertisse ses frères du malheur qui les attend. Il est assez antipathique dans sa manière de commander et de vouloir sauver les siens, ses proches, ceux qui sont déjà privilégiés. Il trouve le moyen de négocier même dans le feu. Enfin, dans sa troisième requête, il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un de chez les morts prévenir ses proches qu'il est urgent de changer de comportement. Dans cette dernière prière, il dévoile ce qu'il a compris dans Hadès, car la parole a gardé le nom d'un monde des morts qui figure justement dans le conte duquel elle s'inspire. L'homme comprend enfin ce qu'il n'a pas compris dans sa vie. Il ne faut pas attendre des miracles, mais œuvrer ici et maintenant pour l'avènement du royaume de Dieu. La parabole prévient ainsi qu'un comportement plus juste est nécessaire, qu'un changement vers une vie véritablement bonne à partager est possible. Cela rappelle aussi la prédication de Jean-Baptiste au bord du Jourdan, qui demande un partage équitable des biens. Dans le début de l'évangile de Luc, chapitre 3, il évoque cette image forte que nous sommes comme des arbres qui portent des fruits, que l'arbre qui n'en produit pas est coupé et jeté au feu. Quand la foule demande à Jean-Baptiste d'expliquer en quoi ces fruits consistent, que devons-nous donc faire ? Jean-Baptiste répond : que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. L'Évangile introduit des exemples de justice très concret, qui encourage à instaurer l'entraide. Mais il y a un risque de voir ici une théologie des œuvres, c'est-à-dire de penser que nous sommes justifiés devant Dieu par nos actes, ce qui serait contraire aux idées de Luther et de sa lecture de l'apôtre Paul. Même si Paul, quand il prône la justification par la foi seule, n'oublie pas le thème de la rétribution. Quand Jésus situe la rencontre entre Lazare et l'homme riche dans le monde des morts, ce n'est qu'un prétexte pour enseigner autre chose. La parabole ne parle pas de ce qui nous attend après la mort, mais de la vie, ici et maintenant. Après le premier tiers du récit, se déroule cet échange entre l'homme riche et Abraham. Lazare ne prend jamais la parole. Il est passif. Il est seulement le sujet du dialogue. Il y a quand même une progression dans l'attitude de l'homme riche. Dans sa première demande, il ne pense qu'à lui, à se rafraîchir. Il est confronté à lui-même et aussi à son impuissance. Il y a d'ailleurs un jeu de mots dans le texte grec quand celui qui demande d'avoir pitié de lui, en grec pitié se dit « éléos », celui-ci ne semble jamais avoir donné l'aumône à Lazare. Et en grec, l'aumône, dans le mot aumône, on retrouve le mot éléos, pitié. C'est l'expression que nous trouvons aussi dans le Kyrie eleison, qu'on traduit Seigneur et pitié. Autre détail du texte. Quand les chiens s'approchent de Lazare, cela signifie dans les catégories de l'époque qu'il devient impur et qu'un bon pharisien se retient de l'approcher. Car les chiens n'étaient pas les animaux de compagnie que nous imaginons aujourd'hui, mais plutôt des bêtes sauvages. Dernier détail, le fait que le nom d'Abraham est cité pas moins que 7 fois a aussi une signification. En dehors d'être le grand patriarche qui inaugure l'histoire du peuple d'Israël, Abraham est exemplaire par son sens de l'accueil et par son hospitalité. Genèse 18 raconte en effet comment Abraham donne l'hospitalité à 3 mystérieux étrangers. La vraie leçon de notre parabole est mise dans sa bouche. Moïse et les prophètes suffisent à avertir les vivants. Il suffit d'écouter. Le thème de l'écoute est très important dans l'évangile de Luc. L'écoute entraîne la foi ou il précède la foi et la repentance. Et plus particulièrement dans les Actes des Apôtres, l'écoute est valorisée comme une réponse à Dieu. Il y a des exemples où l'écoute s'oppose aux possessions. Dans ce sens, la repentance consisterait à prendre l'injustice au sérieux, celle qui sépare l'homme riche et Lazare. L'injustice est flagrante et c'est peut-être la raison pour laquelle personne ne va revenir des morts pour nous avertir. Ce dernier privilège que l'homme riche demande à Abraham lui est refusé. Le message est que nous pouvons changer certaines choses et rendre le monde plus juste. L'altruisme est dans nos moyens. Les frères dont parle Abraham, c'est nous. C'est nous qui devons tirer une leçon du récit. D'abord sur le partage des biens matériels et ensuite sur le rapport entre les Écritures et nos existences. À nous d'être des témoins de l'Évangile, c'est notre rôle en tant qu'assemblée de chrétiens, ce qui est la signification du mot « église ». L'évangile de Luc est probablement écrit plusieurs générations après la vie de Jésus, à un moment où ceux qui attendaient le Messie, ils attendaient que le Messie renverse le pouvoir romain, cela était peut-être déçu, mais cela n'empêchait pas de plus en plus de chrétiens de sentir un renversement et un retour du Seigneur en puissance et en gloire dans leur vie. Et la parousie veut dire présence. Et attendre la parousie du Christ veut dire attendre sa présence. Les communautés chrétiennes se développaient rapidement, ne cessaient de franchir des frontières. Ces communautés assuraient des cultes, l'hébergement des missionnaires, l'accueil des pauvres et les repas partagés. Luc est souvent appelé le premier historien du christianisme. Il est le seul à avoir écrit une suite à l'Évangile dans les Actes des Apôtres, où le sujet est justement la naissance et croissance de l'Assemblée des chrétiens, dans l'Esprit Saint. Il fallait bien s'inscrire dans la durée. Une coexistence de peuples et de croyances devenait indispensable. Des questions très concrètes se pressaient à l'époque, comme par exemple quelle étendue de textes bibliques il fallait lire au culte et comment financer la mission et l'accueil des gens de diverses strates de la société. Voilà pourquoi Luc se préoccupe aussi des questions éthiques. La parabole est un avertissement à ne pas se tromper de combat. Ce n'est pas un exposé théologique sur le salut. Comment les frères de l'homme riche peuvent-ils se laisser convaincre sans miracle? Cette question nous concerne aussi. Comment pouvons-nous, dans ce monde, trouver un réconfort ou une libération? La parabole ne s'apitoie pas sur Lazare. Il n'est pas mis en avant comme une victime. Son nom veut dire « Dieu aide » et le personnage est comprise comme don de Dieu. L'évangile de Luc transmet trois récits qui dénoncent la cupidité et le sens qu'a la possession pour le sort des hommes. Ce sont des récits qui marchent par leur exemple. Le premier et le plus connu est le bon samaritain, dans le chapitre 10. Ensuite, il y a la parabole du riche déraisonnable, chapitre 12, qui met tous ses biens, le riche déraisonnable met tous ses biens en réserve pour pouvoir se reposer, manger, boire et faire la fête. Mais il n'est pas riche pour Dieu. Et il meurt soudainement sans avoir su partager. Le troisième récit est cette parabole sur laquelle nous méditons aujourd'hui. Ces trois exemples mettent en contraste la possession et le don sous le thème suivant. Ce que tu donnes t'appartient, ce que tu gardes pour toi est perdu à jamais. Les personnes qui précèdent le bon samaritain sur le chemin se prennent pour supérieures et trop importantes pour aider l'homme blessé. Le samaritain, au contraire, donne sans compter. Et ce qu'il donne lui appartient. Il devient la générosité incarnée. On ne peut pas lui arracher son don. Le riche déraisonnable garde et jouit seul de ses récoltes, mais gâte sa santé et sa vie. L'occasion de partager est perdue à jamais. Et le moment manqué par le riche est celui où il aurait pu aider Lazare à se relever, comme le fait le bon samaritain. N'avoir jamais donné une attention particulière à Lazare, et cette occasion est perdue à jamais. Plus rien lui appartient, même pas l'autorité pour envoyer quelqu'un prévenir ses frères. Un deuxième enjeu à l'époque de l'Évangile se reflète aussi dans cette parabole. Comment guider les chrétiens dans leur approche des Écritures? Comment éviter de se comporter comme un pharisien trop rigide dans le conformisme de ses lectures? L'homme riche échoue à lire les Écritures à la lumière de son existence. Il a manqué une cible essentielle dans sa vie, la compassion et le soin du plus fragile. Il est passé au-dessus du malheur, mais il est aussi passé à côté d'un sens plus profond de la vie. Qui ose dire aujourd'hui que la cupidité est un vice? Il y a quelques mois, le philosophe américain Michael Sandel était présenté dans le journal Le Monde comme un passeur de justice. Je le cite. La cupidité est un vice, une manière d'être condamnable, en particulier lorsqu'elle a pour effet de rendre insensible à la souffrance d'autrui. Cette pensée rappelle aussi un thème de Paul Ricoeur traité dans son texte « Amour et justice ». Ce texte a une grande réception dans le monde anglo-saxon et en Scandinavie. Plutôt que de séparer les deux, l'amour ou justice, Ricoeur explore de quelle manière l'un régule l'autre. Derrière la polémique de notre parabole, il y a une autre leçon qui voudrait répondre à une question existentielle. La réponse d'Abraham est négative. Si les frères ne savent pas changer de comportement par la parole qui leur est donnée, ils ne sauront jamais. Nous cherchons pourtant une réponse positive, que la vie bonne soit possible dans nos existences, nos relations, nos institutions. Avant la parabole, Jésus explique le rapport entre les Écritures et le royaume de Dieu. Jusqu'à Jean, Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Depuis, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y entrer. La vraie leçon est celle comprise trop tard par l'homme riche que ses frères ont déjà accès à une résurrection dans leur vie, que simplement en écoutant bien, ils peuvent participer au royaume de Dieu. L'enjeu est de convaincre que Moïse et les prophètes sont l'héritage essentiel, pas du tout dépassé. Rappelons-nous que c'est une appellation de l'époque pour nommer ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, ces livres que les Juifs appellent leur Bible. Mais l'homme riche n'a pas su le lire et surtout n'a pas su l'entendre. Comment alors se mettre à une bonne écoute ? La clé de lecture, il faut la chercher ensemble. Le Christ n'a cessé d'offrir cette clé. Il n'y a pas tellement d'excuses quand Lazare est devant notre porte. Si notre cœur reste dur et si nous n'écoutons pas les deux commandements fondamentaux, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. En rappel sur le chemin d'Emmaüs, voilà ici le Christ explique comment lire les Écritures. Ce n'est qu'en marchant, en progressant sur le chemin de la vie, le chemin des pertes et des désillusions. Il ne suffit pas de les lire justement seul dans son coin, il est bon de se mettre en marche à deux ou plusieurs, discerner dans le texte un changement possible. Que le plus puissant se mette au service du plus faible. Alors que dans notre parabole, le plus puissant, celui à qui la vie a toujours souri, s'est laissé admirer, peut-être même idolâtrer. Il a séduit par sa réussite et s'est laissé approcher un peu comme un demi-dieu. Nous trouvons un avertissement à ce genre de situation dans Isaïe 42, dans un des chants du serviteur. Et c'est aussi une réponse à la question « Comment servir Dieu ?» L'Ancien Testament évoque souvent l'accueil des étrangers et le soutien de l'orphelin et de la veuve. C'est qu'il y a une longue tradition qui appelle à changer de cœur. Notre réponse est dans l'écoute, l'obéissance et la confiance. L'inattendu ou la provocation dans cette parabole est l'idée que Moïse et les prophètes ne peuvent pas remplacer notre obéissance, voire notre écoute, ni notre amour du prochain. Nous sommes encouragés à répondre à l'appel de Dieu. Avant la parabole, Jésus critique les pharisiens d'être amis de l'argent, d'être hypocrites. Ils se font passer pour justes devant les gens, mais derrière cette façade se cache la qualité de leur cœur, que seulement Dieu connaît. La parabole encourage à écouter vraiment les Écritures, de lire le texte et le faire travailler en nous, l'interroger aussi et proposer des interprétations. Il peut y avoir des conflits d'interprétation, mais nous ne pouvons pas nous en passer. Il faut justement passer par différentes lectures et suivre celui qui nous met en mouvement et permet de changer de cœur. Comprendre et interpréter un texte va de pair. Et peut-être que le changement, voire la conversion, se produit pendant nos lectures. Un changement n'est pas ponctuel, mais plutôt un chemin à poursuivre. Ce qui rappelle encore une fois les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchent avec le Christ ressuscité à leur côté et ne s'en aperçoivent qu'une fois que leur cœur est touché par ces lectures et interprétations. Et quand enfin ils rompent le pain à l'heure du repas, à leur arrivée. C'est dans les Écritures que Dieu est nommé et que se trouve la clé de la connaissance du salut de l'humain. Ce qui nous rapproche, c'est que nous sommes à la place des frères de l'homme riche. Il ne s'agit pas de nier tout le mal qui est évoqué au sujet de Lazare, la misère, la pauvreté, la négligence ou la maladie. Cela doit au contraire nous encourager à agir. Nous avons en main les données du problème et nous pouvons participer au royaume de Dieu, ici et maintenant. L'enseignement serait que la loi est seulement réalisée quand nous assumons d'être le prochain de celui que nous croisons sur notre chemin. Cette parabole parle de l'entraide et de l'enseignement de l'Évangile à la lumière des Écritures. Elle rappelle aussi une dimension spirituelle. Mettons-nous à l'écoute. Amen. Et nous chantons dans Louange et prière la cantique 278, la foi renverse devant nous, strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
vous pouvez prendre place pour quelques annonces. Alors, d'abord, un grand, grand merci à Christina Mikkelsen pour cette prédication extrêmement fine entre le service de l'autre, la spiritualité, et puis cette façon d'aborder les Écritures et d'y trouver la vie qui vient de Dieu. Donc, grand merci, c'était formidable pour moi, en tout cas, j'espère pour vous tous aussi. Alors, Christina, donc, elle finit, là, je crois que tu as rendu ton doctorat en attente dans quelques semaines de sa soutenance, donc en doctorat de Nouveau Testament. Alors moi, ça m'épate parce que je ne suis pas très bon en langue, j'arrive à lire un peu d'anglais, mais je ne suis pas capable d'écrire une thèse en anglais, ni même de faire une prédication en français. Ce n'est pas évident du tout. Alors on ne peut pas deviner que tu n'es pas française, enfin, c'est très difficile. Donc Christina est danoise. Donc merci beaucoup de ce travail. Alors pour ce travail, mais aussi pour le catéchisme que tu animes, donc un groupe de catéchisme qui suit cette année, donc c'est les cinquièmes dont tu t'occupes tout au long de l'année avec un parcours d'histoire du christianisme. Alors une pensée à propos de service de l'autre et du partage, une pensée donc pour ceux qui sont à la garderie, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu punis loin de nous, loin du culte, mais pour s'occuper des enfants, pour les entourer. On a même Marie qui nous a rejoint, voilà, elle était à la garderie la première partie, puis qui nous rejoint pour la deuxième partie parce qu'elle aime bien entendre chanter aussi. Mais voilà, donc c'est à géométrie variable avec une pensée pour les personnes qui sont à la garderie. À la sortie, un autre service des autres, c'est l'équipe d'accueil qui a préparé un buffet somptueux qui est digne des banquets du riche anonyme. Mais qui, ce coup-là, est une façon aussi de partager en discutant avec un autre, discutant avec une autre, découvrir un nouveau venu ou un habitué. Donc c'est un temps, effectivement, de partage, de bonnes petites gourmandises, mais aussi eh bien, de la rencontre avec l'autre. Mardi à 11h, il y a un événement un peu exceptionnel pour nous, c'est devant le 1 rue de l'Oratoire. Il y aura l'inauguration de la plaque qui nous a été donnée par la Fondation Raoul Wallenberg à l'Oratoire du Louvre, collectivement à notre Église, pour les services, les actions rendues pendant la Deuxième Guerre mondiale en faveur des enfants juifs. Alors Raoul Wallenberg, c'est une personnalité tout à fait remarquable, et donc c'est une fierté, et bien sûr, on peut en être d'autant plus fier que nous, on n'y est pour rien, c'était nos prédécesseurs. Mais je trouve qu'effectivement, en cette période, c'est quand même précieux de se retourner vers le passé, vers savoir ce que des personnes anonymes donc, ont pu faire, en particulier donc, dans l'oratoire, pour aider d'autres personnes en danger grave et en y mettant effectivement en péril leur propre existence. Donc c'est mardi à 11h, vous êtes bien sûr chaleureusement invités pour ce temps d'inauguration. Jeudi, il y a la répétition du chœur avec Fabien Aubé, notre maître de chapelle, qui recrute particulièrement des sopranes, des ténors et des basses. En français, ça veut dire qu'il y a déjà pas mal d'altos, je pense. Mais donc, je pense que les altos sont quand même accueillis, je suppose. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il me disait qu'il y avait une bonne dynamique avec le chœur cette année, en particulier à la rentrée, avec pas mal de paroissiens qui rejoignent le chœur. Donc, c'est là aussi... une joie pour soi-même de chanter avec d'autres, mais aussi un service pour l'Église. Alors, autre qui recrute, c'est la troupe d'éclaireurs. Il y a eu un gros départ d'une génération qui est partie, et donc ils recherchent à recruter particulièrement en ce moment des garçons donc, de 12 à 13 ans dans la troupe d'éclaireurs. Alors, dimanche prochain, ici, il y a le culte, bien sûr, avec encore des difficultés de circulation, parce qu'aujourd'hui, c'est Paris sans voiture. Dimanche prochain, c'est autre chose qui a été inventée pour ennuyer les grands-mères qui veulent venir en voiture, c'est les 10 km de Paris-Centre. Donc, il faut prévoir d'arriver peut-être en métro, peut-être, pour pas être en difficulté. Alors, dimanche prochain, il y a le repas paroissial avec un repas cévenol, avec Jean-Pierre et Geneviève qui déjà préparent ce repas. Mais alors c'est vrai que ça les aiderait si on savait un peu combien de personnes viennent au repas. Et pour ça, on utilise un baromètre qui est le nombre de personnes qui se signalent ayant l'intention de venir sur une feuille qui est au stand de librairie ou à l'accueil pendant la semaine. Si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes quand même bienvenu le jour J, parce qu'en fait, quand même, c'est à partir du nombre d'inscrits qu'on multiplie par deux pour savoir le nombre de personnes qui pourraient venir. Alors aujourd'hui, il y a un autre repas qui est proposé, c'est le troisième dont je parle, c'est le repas de la Seine, où effectivement, on peut avoir, si on le désire, ce geste qui dit qu'on veut se nourrir de tout ce que Dieu nous donne en Christ. Alors, ce n'est pas la seule façon de répondre oui à ce que Dieu nous offre en Christ, mais c'est une des façons possibles. Donc, ceux qui, voilà, dans leur cœur, discernent une façon de répondre oui à Dieu en se participant à ce repas ensemble peuvent bien sûr participer, mais les autres peuvent soit se mettre dans le cercle et passer le plat et la coupe, soit rester à leur place pour méditer silencieusement. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Donc, nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu, la vie, le mouvement et l'être, comme nous verrons dans le groupe de philosophie et théologie qui se réunit bientôt. C'est donc par reconnaissance simple que nous donnons pour que l'Église puisse participer à cette annonce de l'Évangile dans le monde. Merci beaucoup. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Voici les tiens rassemblés devant toi, nous avons entendu ta parole, ô Éternel. Nous t'ouvrons notre porte, sois notre hôte. Amen. Alors voilà comment l'Évangile raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés ». Et Jésus ajoute cette promesse qui se réalise par l'Esprit. « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ce jour, c'est aujourd'hui.
Et nous prions. Ô notre Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie, à toi de nous nourrir, de nous conduire, à toi de nous protéger et de nous conserver, à toi de nous sanctifier par ton appel, à toi de nous fortifier et de nous bénir. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant, soutiens-nous de ton amour et donne-nous ainsi un cœur de chair pour notre frère. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et d'être ainsi prophète en ce monde, d'être affermis de ta force et d'en user pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Et unis dans une même foi, dans la même consécration à ton service, en communion avec tous les chrétiens de par le monde, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que vous pouvez venir et participer à ce repas. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Donc nous nous assemblons en tablées successives d'une cinquantaine de personnes pour donner un visage plus humain, plus fraternel donc à ce temps de repas en communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Que le Père de Jésus-Christ vous remplisse de sa joie, sa paix et sa force. Allons dans la paix du Christ.
Rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu selon les paroles données à Moïse. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage sur toi et te donne la paix.